13-14, Bruno Duvic.
Bonjour à tous, bienvenue à Commercy, sous-préfecture de la Meuse, pour examiner cette question jusqu'à 14h. 3 ans après, que reste-t-il des gilets jaunes? Alors nous sommes installés sous une tente au bord du rond-point des Vaches Bleues, devenu un emblème de Commercy. Le 17 novembre 2018, il était bloqué comme toute l'entrée de la ville. Commercy fut une importante place de mobilisation. Ici s'était tenue l'assemblée des assemblées des gilets jaunes. Et dans cette région, on a poussé plus loin qu'ailleurs l'expérience de démocratie directe. Alors qu'en reste-t-il 3 ans après? Une nouvelle manifestation de moindre ampleur se prépare en ce moment même. Il y a une tente qui est en train d'être installée à quelques mètres de moi. J'ai repéré un slogan affiché, il y en a plusieurs autour du rond-point. Demain sera pire. Il y a ce sondage, alors que le mouvement semble éteint, sondage Ipsos pour France Inter. 40% des personnes interrogées se sentent encore proches de ce mouvement. Premier reportage et parole de Gilets jaunes. Dans un instant, d'abord les autres titres de l'actualité. C'est avec vous Marion Lourd, bonjour.
Bonjour Bruno, bonjour à tous. Pour faire face à la 5e vague de Covid sans trop de dommages, utilisons tous les outils. L'appel sur France Inter du président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, pour qui cette reprise de l'épidémie n'est pas un échec de la vaccination. On vous expliquera pourquoi dans ce journal. Dans le journal encore, le 6e procès d'Éric Zemmour, le polémiste devant le tribunal correctionnel de Paris aujourd'hui pour complicité d'incitation à la haine raciale. Le prévenu n'est pas là mais ça n'empêche pas de vifs débats. Nous y serons. Nous serons aussi au Brésil avec des supporters qui ont suivi avec passion le match de football Argentine-Brésil hier. Les Argentins se qualifient pour le Mondial. Et puis nous vous emmènerons au cinéma. De l'amour, de l'horreur et de l'étrange dans votre sélection du mercredi.
Et parler des gilets jaunes 3 ans après, c'est aussi s'intéresser à l'économie d'une petite ville comme Commercy, les commerces. Nous irons faire un tour notamment dans une librairie en fin d'émission. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Et un mot pour vous décrire l'endroit où nous sommes installés sous notre petite tente au bord du rond-point, lieu typique des entrées de ville où passent en voiture des millions de Français chaque jour. Des grands magasins entrepôts, bricomarché, discount netto, une entreprise de carrelage, une de chauffage. Et à nos pieds, ce rond-point décoré de 3 vaches bleues où convergeaient les gilets jaunes. Il y a encore régulièrement des rassemblements, aujourd'hui en particulier, parole de manifestants dans un instant. Parmi les slogans affichés autour du rond-point, il y a celui-ci, Macron tu nous pompes, le ton est donné. Mais d'abord, on ne peut pas rater un autre panneau. C'est celui qui affiche les prix des carburants de l'Intermarché à côté de nous. 1,66€ le sans-plomb 95, 1,56€ le gazole. Ce qui était à l'origine du mouvement des Gilets jaunes, le prix des carburants, est toujours d'actualité. Bonjour Mathilde Dehimy.
Bonjour Bruno.
Mathilde, vous nous accompagnez en reportage ici à Commercy et vous avez rencontré Pascal et Isabelle Bourgeois. Ils sont ambulanciers taxi. Les deux fils et la belle-fille sont aussi dans l'entreprise.
Oui, ils possèdent 22 véhicules, des ambulances, des transports sanitaires assis, des taxis aussi, qui font le plein dans une grande cuve à l'entrepôt. Isabelle et son mari Pascal ont vite fait les comptes.
Un budget à peu près de 10 000 euros par mois. Elle a vraiment augmenté, elle a presque doublé.
Comment voulez-vous que je répercute le prix du carburant sur mes prestations? C'est impossible. Mes tarifs y sont imposés par l'État.
Des tarifs de la sécurité sociale plafonnés, 100 euros par exemple, pour du transport sanitaire assis, aller-retour. Sauf que nous sommes ici, loin des grands centres hospitaliers.
Nous, c'est Bar-le-Duc, c'est 45 minutes, c'est Toul, c'est 45 minutes. On ne peut facturer un transport que quand le patient est dans la voiture. Tous les kilomètres qui sont faits à vide ne sont pas facturés. Donc si un patient m'appelle à Nancy pour aller le rechercher, je vais déjà faire 60 kilomètres à vide, il n'est pas sûr qu'à terme, je lui dise oui. Parce que mes tarifs ne sont pas suffisamment élevés et les transports qui consomment beaucoup de carburant, on va les refuser.
Des transports qu'il ne peut pas refuser quand il est de garde pour le SAMU, 35 par mois, jour et nuit. Ma marge se réduit comme peau de chagrin, constate amère Pascal Bourgeois.
À tel point qu'aujourd'hui, Mathilde, les époux bourgeois qui travaillent donc avec leurs deux fils s'interrogent sur la viabilité de leur entreprise. Et voici ce qu'ils vous disent.
Je me demande si aujourd'hui, ça ne serait pas la solution qu'ils aillent ailleurs, faire peut-être autre chose, ou qu'ils restent salariés, mais surtout pas qu'ils deviennent patrons.
Tous les jours, je me pose la question de savoir si transmettre la société à mes enfants, c'est pas leur faire un cadeau pourri.
Ils cherchent pourtant à recruter. Il y a un mois, ils ont posté 3 annonces d'ambulanciers auxiliaires. Un seul candidat s'est présenté.
Et si Pascal et Isabelle ne se présentent pas comme gilets jaunes, ils ont même parfois des mots durs à leur égard. Ils leur reconnaissent le mérite d'avoir mis certains sujets dans le débat. Bonjour Emmanuel Henry.
Bonjour.
Vous avez 49 ans, 2 enfants, vous êtes préparatrice de commandes dans la grande distribution. Vous faites partie de ceux qui sont toujours actifs dans le mouvement des Gilets jaunes. 3 ans après, donc, vous êtes de cette manifestation qui se prépare. On est maintenant à une 20aine de personnes là autour du rond-point. Pourquoi est-ce que vous êtes toujours là ?
Parce que depuis 3 ans, il n'y a toujours pas de changement. Les revendications n'ont pas abouti. Il y a toujours des problèmes de pouvoir d'achat. On est toujours en train de survivre et pas vivre. Qu'il y a plein de problèmes partout entre les liberticides, les libertés, la violence policière, la loi globale, le chômage. En fait, il y a tellement de choses qui sont engrangées qu'on a de quoi rester dans la rue encore longtemps et même après les élections.
Vous avez l'impression que rien n'a bougé ?
Ah non, rien. Rien pour aider les gens et surtout pas ça aide principalement les personnes, les 5%, les 10%, les lobbies, les multinationales, mais pas nous, quoi, pas le peuple, quoi.
Si je vous dis qu'il y a plein d'économistes qui disent que voilà, le bilan du quinquennat, c'est que le pouvoir d'achat a légèrement augmenté, en tout cas n'a pas bougé, n'a pas diminué pour la plupart des gens.
Qu'est-ce alors expliquez-moi comment, alors, dans ce cas-là, parce
vous,
que moi, je vois les
pas.
Gens... Non, on est dans la misère, on est dans la rue, et on voit comment ça se passe. Il faut peut-être regarder du bon côté des personnes, en fait.
Et si je vous dis que le mouvement a l'air éteint, qu'est-ce que vous en dites ?
Ah, je dis, oh bah oui, bien sûr, hein, avec toute la répression policière qu'il y a eu partout. Et
uniquement
tout ce
qu'on
nous
pour
interdit.
Ça ?
Non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des gens qui veulent avancer d'une façon déterre, d'eux qui veulent être pacifiques, il y en a qui veulent marcher avec les syndicats, d'autres en hiérarchie avec des leaders, pas de leaders. C'est ça le problème. Et le problème aussi, c'est qu'il y a une fausse démocratie en France, quoi.
Merci Emmanuel, on vous retrouve plus tard dans l'émission avec d'autres manifestants ici et les reportages de Mathilde Dehimi. Pour l'instant, c'est les autres titres du journal que vous développez, Marion Lourd.
La cinquième vague de l'épidémie de Covid est là depuis la mi-octobre. Confirmation du président du conseil scientifique, invité de France Inter ce matin. Depuis plusieurs semaines, on voit augmenter le nombre de contaminations, le taux d'incidence du coronavirus. Il a dépassé les 100 cas pour 100 000 lundi. Les hospitalisations augmentent aussi. Elles pourraient atteindre 1400 par jour début décembre, estime Jean-François Delfrécy. Pour lui, on peut toutefois passer cette vague, mais sous conditions.
Je reste avec un optimisme prudent. À la fois les données que nous avons, les modèles de Pasteur montrent qu'avec le niveau de vaccination que nous avons, on a probablement la capacité de faire face à cette cinquième vague à condition que nous utilisions tous les outils de la boîte à outils. Et quels sont tous ces outils ? Il y a vacciner les personnes qui ne sont pas vaccinées, la troisième dose, mais aussi les gestes barrières au niveau individuel. Si je porte un masque ce matin, c'est pas par hasard. Il faut qu'on remette le masque. Et enfin, appliquer le pass sanitaire dans l'ensemble de ce qu'il peut faire. Qu'est-ce qui nous reste dans la boîte à outils que nous n'avons pas encore suffisamment utilisé ? Le télétravail est un des points. C'est une décision qui relève du dialogue entre l'État et les entreprises, mais on pourrait probablement optimiser l'utilisation du télétravail dans cette phase pour faire face à la cinquième vague.
Le président du conseil scientifique Jean-François Delfrécy, invité ce matin de la matinale de France Inter. Cette cinquième vague, selon le président du conseil scientifique, n'est pas un échec du vaccin. C'est vrai qu'avec 75% de Français vaccinés, la reprise de la circulation de la Covid peut étonner. Bonjour Hélène Chevalier.
Bonjour.
Alors pourquoi l'épidémie reprend-elle ? Les injections sont inefficaces ?
Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il reste 6,5 millions de personnes non vaccinées en France, mais elles ne constituent pas l'intégralité quand même des cas positifs aujourd'hui. On sait que la vaccination ne protège pas contre la contamination, même si elle en réduit tout de même le risque. Selon les dernières études de la DREES, l'organisme de statistiques du ministère de la Santé, il y avait tout de même près de 6 fois plus de tests positifs parmi les personnes non vaccinés. Et ça, c'était au mois d'octobre. Il y a d'autres facteurs à ajouter. Le temps humide et froid de l'automne, on le sait, est propice à la circulation du virus. D'autant que l'on a tendance à beaucoup moins aérer. L'aération, un des outils essentiels pour lutter contre l'épidémie, avec le port du masque et le lavage des mains. Et cela, c'est aussi une raison de la reprise des contaminations. Le gros relâchement des Français sur les gestes barrières. Enfin, la chose à retenir tout de même, c'est l'efficacité de la vaccination contre les formes graves. Malgré le nombre de cas, les hospitalisations, même si elles augmentent légèrement, sont encore limitées.
Et il faut donc renforcer cette couverture vaccinale, selon Jean-François Delfrécy.
Oui, parce que c'est une des raisons possibles également de cette cinquième vague. Hein. Selon des études récentes, l'efficacité du vaccin Pfizer baisserait de moitié, par exemple, après 6 mois. Le rappel vaccinal permettrait de revenir à une efficacité maximale dès les 48 heures après l'injection, déjà prévue pour les plus de 50 ans à partir du 1er décembre. La question se pose maintenant pour les autres. Alain Fischer, en charge de la stratégie vaccinale, l'a confirmé ce matin. La troisième dose pour tous est très probable. Quand ? Chaque chose en son temps, a-t-il répondu.
Hélène Chevalier, chef du service santé de France Inter, merci à vous. Parmi les autres réponses citées par le président du conseil scientifique, les anticorps monoclonaux sous-utilisés en France, d'après lui, pour le traitement des malades, ils sont autorisés chez nous par injection et arriveront par voie orale en début d'année prochaine. Au chapitre traitement, le laboratoire Pfizer vient de demander l'autorisation d'un traitement antiviral aux États-Unis. En Europe, c'est un autre médicament de cette famille, le molnupiravir, qui est encore en phase d'examen par l'agence du médicament. La Chine, elle, a fait le choix du zéro Covid. Autrement dit, des restrictions sanitaires drastiques pour éviter tout développement d'un foyer de contamination. Confinements locaux, traçage, stricte quarantaine, avec un certain succès, puisque le dernier décès officiellement recensé remonte à fin janvier. Mais à l'approche des Jeux Olympiques le 4 février, Pékin resserre encore les contraintes. Récit de la correspondante de France Inter, Dominique André.
Le virus ne doit pas pénétrer à Pékin et ne doit pas se répandre dans Pékin, a déclaré un porte-parole de la capitale chinoise. À partir d'aujourd'hui, toute personne entrant dans la ville doit présenter un test de dépistage négatif datant de moins de 48 heures et un code de santé vert attribué par les autorités sanitaires. Jusque-là, la règle n'était imposée qu'aux voyageurs provenant de zones à risque. Depuis ce matin, le nombre de vols locaux à destination de Pékin est réduit à une liaison seulement par jour à partir d'une zone classée à risque. Il y a eu seulement 8 cas locaux dans toute la Chine hier, mais les autorités traquent le virus sans pitié. Sur les réseaux sociaux, l'émotion est grande après la mise à mort d'un chien, un corgi, tué à coups de pied de biche sur la tête par des fonctionnaires pendant que ses maîtres étaient en quarantaine dans le centre du pays. Le débat sur la politique de tolérance zéro commence à monter dans le pays, mais la nervosité des autorités reste totale. Les Jeux Olympiques d'hiver se dérouleront dans une bulle sanitaire pour protéger la population chinoise. Pékin domine. André, France Inter.
Covid et santé mentale, on connaissait les conséquences désastreuses de la pandémie sur le bien-être des jeunes. La défenseure des droits les a chiffrés et lance l'alerte sur France Inter aujourd'hui. Selon Claire Hédon, les syndromes dépressifs ont doublé chez les 15-24 ans depuis le premier confinement. Soyez prévoyants si vous prenez un train régional. Aujourd'hui, trafic SNCF perturbé. La CGT et Sud appellent à la grève pour demander des hausses de salaire. Un rassemblement avait lieu ce matin, d'ailleurs devant le siège de l'opérateur ferroviaire. La question des salaires brûlante alors que l'inflation atteignait 2,6% le mois dernier. Rémunération et pouvoir d'achat, on en parle bien sûr à partir de 13h21 dans le 13-14 en direct d'un rond-point de Commercy avec les Gilets jaunes. 3 ans après le début du mouvement, ils conservent une base solide, montre aujourd'hui le sondage réalisé pour France Inter. Tous les chiffres sur notre site franceinter.fr. Il jeûnait depuis le 11 octobre dernier pour dénoncer le traitement inhumain, je cite, infligé aux migrants. Démantèlement et évacuation surprise des camps, deux militants associatifs annoncent aujourd'hui qu'ils mettent un terme à leur grève de la faim. Nous ne sommes plus en capacité de lutter par ce moyen, explique-t-il. Mais ils continuent de pointer l'absence de dialogue et d'écoute, selon eux, de la part de l'État.
Il est 13h13 sur France Inter. Deux arrestations hier, Marion Lourd, dans la mouvance de l'ultra-droite.
Deux hommes accusés d'avoir appelé à des actions violentes sur la messagerie cryptée Telegram et d'avoir tenu des propos antisémites et racistes. Selon nos confrères de France Info, la DGSI a interpellé l'un d'eux en Gironde, l'autre dans le Tarn-et-Garonne. Il s'agit d'un employé de mairie de Montauban, âgé de 46 ans. Des armes ont été retrouvées chez lui. Le débat se tenait le 29 septembre de l'an dernier sur la chaîne CNews. Éric Zemmour s'en prend aux mineurs étrangers isolés. Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, il faut les renvoyer, estime le polémiste. Il comparaît aujourd'hui pour complicité de provocation à la haine raciale et d'injures raciales aux côtés du directeur de la publication de CNews. Bonjour Mathilde Vinceneux.
Bonjour.
Le possible candidat à la présidentielle n'a pas voulu venir au tribunal correctionnel de Paris pour ne pas faire de l'enceinte judiciaire un studio télé d'infos continue selon son avocat. Ça n'empêche pas des débats agités dans la salle d'audience.
Le tribunal sera particulièrement vigilant à la sérénité des débats. Je ne manquerai pas d'intervenir. La présidente hausse le ton dès les premières minutes. Quand la défense s'offusque pendant l'appel des nombreuses parties civiles, une trentaine au total, des associations et des conseils départementaux qui sont responsables des mineurs isolés, ils ne viennent là que pour faire masse, pour faire loup dans la meute, s'emporte Maître Baratelli, l'avocat du directeur de publication de CNews. L'avocat d'Éric Zemmour demande, lui, un nouveau renvoi du procès, mais la procureure s'y oppose. Il faut être sérieux, il est temps de commencer. La demande est rejetée, mais la défense repart à la charge. L'avocat d'Éric Zemmour plaide pour que le tribunal prononce la nullité des poursuites contre le polémiste. Selon lui, le terme mineur isolé n'a aucun sens. Quand on vise les musulmans ou les arabes, je vois de quoi on parle. Mais les mineurs isolés, là, je ne sais pas. Maître Pardo interroge, d'où tirez-vous qu'Éric Zemmour a parlé d'origine étrangère?
En direct du tribunal correctionnel de Paris pour France Inter, Mathilde Vinceneux, Éric Zemmour risque jusqu'à un an de prison et 45 000 euros d'amende. Les maires de France auront bientôt un nouveau porte-parole. L'Association des maires de France élit son nouveau président aujourd'hui. Deux candidats, d'un côté David Lisnard, maire LR de Cannes, adoubé par l'actuel président François Baroin. Il se présente comme le garant de l'indépendance de l'AMF. Et face à lui, Philippe Laurent, maire UDI de Sceaux, plus enclin à discuter avec l'exécutif. Résultat cet après-midi avant la réception d'un millier d'élus à l'Élysée.
Au Royaume-Uni, Marion, l'attentat de Liverpool était en préparation depuis au moins 7 mois.
C'est ce qu'affirme la police britannique ce matin. Les composants pour l'engin explosif déclenché dimanche matin devant un hôpital ont été achetés au plus tard en avril dernier par l'auteur présumé des faits. Le trentenaire est mort dans l'explosion. Son chauffeur de taxi, lui, est légèrement blessé. À l'étranger encore, la capitale belge voit affluer de plus en plus de jeunes Français, souvent des déçus du système Parcoursup. Ils représentent, par exemple, 15% des effectifs de l'Université francophone libre de Bruxelles. Dans la filière pharmacie, on compte même plus de Français inscrits que de Belges. Sur place, Angélique Boin, ces arrivées commencent parfois à déranger.
Bâtiment D, 11e étage, nous voilà avec Charlotte qui arrive de Nice.
Dans ma promotion, sur une cinquantaine d'élèves, il y a moins d'une dizaine de Belges. On est quasiment tous Français.
Charlotte est en master de journalisme.
J'ai passé les concours en France et je les ai tous ratés. Et du coup, j'ai cherché un endroit où j'aurais pas à payer des milliers d'euros et qui me prendrait, quoi.
Bâtiment D, c'est aussi celui où étudient Nathan et Zoé. Grand carton à dessin sous le bras, ils sont arrivés en septembre.
Nous, on fait de l'architecture. On est en première année parce que forcément, les écoles en France, c'est archi compliqué de rentrer.
Et ici, c'est une très très bonne école, mais c'est juste qu'ils n'ont pas choisi de faire la même chose qu'en France. Ils sélectionnent tout le monde et juste ceux qui décrochent, décrochent parce qu'ils n'y arrivent pas. Et au final, on finit avec une promo à peu près du même nombre d'élèves à la fin de l'année qu'en France. C'est juste qu'au début, tout le monde a pu y accéder.
Ni sélectivité, ni quota, sauf dans certaines filières médicales, des diplômes reconnus en Europe. Voilà ce qui attire ici les jeunes Français. Nous entrons chez Nadine Posture, la vice-rectrice à l'enseignement de l'ULB, pour qui Bonjour. Cela ne peut néanmoins plus durer.
La Belgique francophone tient à sa politique de libre accès. Un libre accès favorise davantage l'ascenseur social que permet l'enseignement supérieur. Donc, c'était notre choix. Et jusqu'à présent, il tenait.
Mais il ne tient plus. Le système n'est pas viable à long terme. En Belgique, estiment les responsables de l'université qui évoquent l'idée de faire contribuer financièrement le gouvernement français.
Les Belges déjà qualifiés pour la Coupe du Monde de foot 2022, tout comme la France d'ailleurs, victorieuse hier 2-0 contre les Finlandais. Les Pays-Bas n'ont décroché leur ticket qu'hier. L'Argentine également, c'était la rencontre internationale la plus suivie par les fans de foot hier. Les Argentins décrochent un nul, 0 partout face au multititré brésilien, déjà assuré avant le match de disputer le mondial. Deux rivaux historiques sur le terrain, à Rio de Janeiro, les supporters ne pouvaient pas manquer ça. Reportage de l'envoyé spécial de France Inter, Alexandre Berthaud.
Certes, le Brésil était déjà qualifié avant le match, mais l'Argentine, pour Juliana...
C'est une rivalité explosive, c'est pour ça que les bars sont pleins d'ailleurs.
Sur le terrain, beaucoup de fautes, 42 au total, quelques rares occasions, et un absent de marque Neymar, indispensable. Pour Luis,
il change beaucoup de choses. Là, on n'arrivait pas à attaquer, l'équipe était perdue, sans repère.
Pour d'autres, c'est l'inverse.
On n'a pas besoin de Neymar autant qu'on le pense. On a surtout besoin de stabilité émotionnelle dans les.
Bruno qui juge sévèrement cette bonne guerre, le match de l'Argentine.
Je crois que Messi est le meilleur joueur du monde. Mais avec cette équipe, il ne peut pas faire plus. C'est une équipe faiblarde qui ne dépend que de lui.
Mais Leonardo, maillot sur le dos, a bien du mal à se satisfaire du match nul.
L'Argentine nous a battus en finale de la Copa América. On aurait dû gagner, ça pique un peu, mais c'était un match correct.
L'Argentine conserve donc l'ascendant continental sur un Brésil dont les supporters croient toujours à une victoire en Coupe du Monde l'an prochain, plus par habitude que par enthousiasme.
Et de l'enthousiasme, on en a à France Inter pour le cinéma. Bonjour Corinne Pellissier.
Bonjour.
Vous nous livrez la sélection de ce mercredi au programme de cette semaine de l'amour, de l'horreur et de l'étrange, avec un voyage pour commencer dans les forêts de Colombie.
Allez, fermez les yeux, Marion, suivez ma voix, ouvrez vos chakras. Vous allez peut-être entendre un drôle de bruit, comme une énorme boule de plomb qui tomberait au fond d'un puits. Voilà ce que nous propose aujourd'hui le nouveau film d'Apichat Pong, Veracetta Cool, un voyage sonore avec Hilda Swinton dans le rôle d'une botaniste exilée à Bogota, obsédée, comme dans un rêve, par le souvenir d'un son qu'elle va tenter inlassablement de reproduire en studio. C'est un film à l'atmosphère très enveloppante, onirique, avec de longs plans fixes dans l'univers toujours un peu étrange du cinéaste. Très peu de dialogue, hein, sachez-le, pour apprécier complètement l'expérience. L'esthétique est sublime, ça s'appelle Memoria, prix du jury ex-aequo au dernier festival de Cannes.
Et au cinéma également ce mercredi, Les Amants de Nicole Garcia.
Là, c'est un roman noir en trois actes avec Stacy Martin, Pierre Niney, Benoît Magimel, entre Paris, l'île Maurice. Une blessure amoureuse de jeunesse qui est ravivée par une rencontre sur une plage. Ça va complètement bouleverser le quotidien d'une jeune femme tiraillée entre le passé, le présent, le désir d'aventure, le confort que lui procure l'argent de son mari, du Nicole Garcia pur jus pour un thriller sentimental où la passion dévore tout.
Et votre troisième choix, Orange Sanguine, une comédie méchante.
Exactement, par le fondateur du collectif des Chiens de Navarre, Jean-Christophe Meurus, qui signe ici l'un des films les plus punk de cette fin d'année. Une satire politique et sociale, remplie de personnages cabossés, malmenés par la vie, de répliques truculentes. C'est un film hyper cynique, qui vous mettra d'ailleurs souvent un peu mal à l'aise avec notamment des scènes de sexe et de torture, vraiment trash. Mais la tonalité est assez juste lorsqu'il s'agit surtout de passer à la loupe la société, tous nos petits travers. Trois histoires ici qui s'entrecroisent avec une mention spéciale à ce couple de retraités qui, dans le film, va tenter d'éponger ses dettes en se lançant dans un concours de rock.
Ah bah allons-y. Les conseils de Corinne Pellissier, Madame Cinéma de France Inter, merci à vous. Et loin des salles obscures, on retrouve en plein air le 13-14 de Bruno Duvic, installé sur un rond-point de Commercy dans la Meuse en ce troisième anniversaire du mouvement des Gilets jaunes.
En effet, à 13h21, Marion Lourd qui avait présenté le journal de 13h, dans un instant la météo, puis ce 13-14 spécial Gilets jaunes, trois ans après ici, à Commercy.
Bon Maurice, t'as le pied de biche ?
Oui mais...
Mais quoi encore ?
Je le sens pas, voilà, j'ai encore fait mon cauchemar, avec l'installateur Omiris qui débarque, il met des détecteurs partout. Le gars il est tellement pro là, j'en ai des sueurs dans le dos.
Arrête avec Omiris, tu vas nous porter la poisse.
Omiris, alarme et télésurveillance, vous êtes entre les meilleures mains.
Omiris, un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Soirée événement, sur France 2, des citoyens viendront vous présenter leurs idées pour révolutionner notre quotidien.
Je propose un quota carbone.
De ne plus donner le permis de conduire à vie.
Pour faire baisser les prix de l'immobilier, j'ai une idée à proposer.
J'ai une idée pour la France. Le grand débat citoyen présenté par Julien Bugier, demain soir à 21h05 sur France 2.
Alors pour être honnête ici, côté ciel, nous avons le choix entre gris ou gris. Qu'en est-il ailleurs ? On voit cela dans un instant.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes. Toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Du gris à Commercy et en fait un après-midi nuageux pour presque tout le monde.
Oui, hormis les plaines du Languedoc-Roussillon qui bénéficieront d'un soleil radieux cet après-midi, mais avec beaucoup de vent, ce sont les nuages qui s'imposeront sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur et entre la Bretagne, la Loire-Atlantique, l'Ouest parisien et les Hauts-de-France. Des éclaircies arriveront quand même à se développer, permettant d'avoir un ciel plus lumineux. Sur la Corse, les nuages pourront être menaçants, s'accompagner d'orages, le risque concernant surtout la partie est de l'île. En revanche, sur le reste du pays, la couche nuageuse sera le plus souvent compacte et les trouées seront rares et puis par moments, des petites pluies faibles passagères circuleront entre le nord de la Nouvelle-Aquitaine, la Bourgogne, la Champagne et la Lorraine. Quelques gouttes se feront aussi remarquer vers le Massif central et le Midi toulousain. Les températures maximales gagnent quand même 1 à 3 degrés par rapport à hier. Elles restent un peu justes pour la saison entre le sud-ouest et le nord-est. Prévoyez 7 à 16 degrés sur la majeure partie du pays, jusqu'à 19 degrés entre la Corse et la Côte d'Azur. On attend 9 degrés seulement à Commercy et 12 degrés à Valenciennes, Paris et à Biarritz.
Oui, je vous confirme qu'il fait pas chaud, chaud. 13h23, que reste-t-il des gilets jaunes trois ans après les premiers ronds-points ?
France Inter, le 13-14. Bruno Duvic.
Nous sommes ici dans une ville de forte mobilisation. Il y a trois ans, ce rond-point des vaches bleues à côté duquel nous sommes installés, ces trois vaches qui décorent le rond-point. Commercy, c'était aussi au cœur de l'hiver 2018-2019, la ville de l'Assemblée des Assemblées des Gilets jaunes. Il y a encore régulièrement des rassemblements, une vingtaine de personnes autour de moi, autour de la table que nous avons installée, le petit studio de France Inter ici sous la tente, au bord du rond-point. J'ai vu des palettes, il y a des braseros qui se préparent, tout un tas de slogans déjà affichés autour de ce rond-point, plus de justice sociale, un meilleur partage des richesses et du monde aussi autour de la table de France Inter. Bonjour Karine Laurent.
Bonjour.
Vous êtes femme de ménage, je voudrais que vous me racontiez votre histoire et notamment quelle était votre situation il y a 3 ans quand vous êtes arrivée sur le rond-point et que vous avez commencé à manifester.
J'étais en instance de divorce, ouais. Avec 3 enfants à charge et sans emploi.
Sans emploi à
sans
ce moment-là
emploi.
Vous dites j'étais dans une très grande galère sociale à ce
oui.
moment-là.
Parce que pas de RSA, rien.
Et en recherche de logement après
et
le divorce.
Et en recherche de logement.
Et vous dites, sur le rond-point, je me suis aperçu que j'étais pas seule dans cette situation, j'ai rencontré des gens comme moi. C'est la première chose qui vous a frappé.
Oui, j'étais pas toute seule. Et ça fait du bien, parce que du coup, ben, ça remonte un peu. Quand il y a une baisse de morale, et ben, les autres sont là pour nous relever.
Et vous y étiez tous les samedis ?
Tous les jours.
Tous les jours.
Tous les jours.
Ouais. Qu'est-ce qui se passait ? Qu'est-ce qui se disait sur les ronds-points ?
Bah, c'est un ras-le-bol. Ouais. Ras-le-bol de ne pas finir les fins de mois, d'être obligé de gratter, d'être obligé de trimer pour trouver quelque chose.
Ouais.
Et on n'a rien. Et puis moi, j'ai 3 enfants, donc les 3 enfants, il fallait que je les nourrisse.
Les 3 enfants, ils ont la vingtaine.
Maintenant, oui.
Ils vont bien ?
Oui.
Parce que ça va mieux pour vous. Il y a un slogan que je trouve terrible, là, que j'ai vu passer parmi les affiches, qui est « Demain sera pire », ce qui est vraiment pas porteur d'espoir. Pour vous, ça va mieux quand même depuis 3 ans.
Ça va mieux, oui, mais j'ai peur pour mes enfants, parce que ça ira pas mieux.
Vous avez peur de quoi ?
Bah, pour eux, le travail, puis même en travaillant, de toute façon, ils arriveront même pas à manger, à finir les fins de mois aussi, parce que bon, tout augmente, sauf le salaire.
Ils ont un job aujourd'hui.
Oui.
Une des caractéristiques de beaucoup de gilets jaunes, c'est qu'il y a eu un accident de vie, comme vous, le divorce que vous nous racontiez, et puis cette idée que dans le budget, on est à 1 euro près. Vous avez une expression, vous dites « la baguette à plus d'un euro, c'est grave ».
Oui, c'est grave. C'est grave parce que du coup, bah, même maintenant, pourtant le pain, normalement, c'est ce qui devrait coûter le moins cher. Mmh. Et bien bah, maintenant, il y en a qui n'en mangent pas. Tous les jours parce que c'est trop cher.
Et vous n'avez vraiment pas l'impression d'avoir été entendu. Il y a eu beaucoup de choses depuis 2018. Il y a eu des primes qui ont été distribuées, souvenez-vous, à ce moment-là. Il y a eu le grand débat. Et encore une fois, et on y reviendra dans cette émission, il y a plein d'économistes qui disent aujourd'hui, le bilan, c'est que le revenu de 95% des Français... Alors vous allez me dire, il y a les 5%, mais de 95, ce revenu, il n'a pas baissé, il a augmenté. Vous n'avez vraiment rien vu, vous voyez aucune différence avec il y a 3 ans.
Non, on nous distribue des miettes. Parce que de toute façon, on nous donne un peu plus de salaire. Mais tout augmente. Le gaz augmente, le gasoil augmente. Moi, je ne conduis pas, mais bon, je pense à ceux qui conduisent et qui doivent faire 100 bornes par jour. Eh bien, à la fin du mois, ben, ils n'ont plus rien.
Et alors, je disais que vous êtes femme de ménage, vous n'aviez pas d'emploi il y a 3 ans, et quelques mois plus tard, je crois, vous aviez des emplois, mais dans 3 entreprises différentes avec des horaires infernaux. Aujourd'hui, vous avez réussi d'abord à trouver un emploi dans une seule entreprise.
Dans une seule entreprise, avec une seule entreprise.
Vous êtes prête à remanifester ? Vous êtes là aujourd'hui ?
Oui. Je n'ai pas arrêté de manifester. J'y vais moins souvent, mais je n'ai pas arrêté.
Est-ce que ça passera par le vote à la présidentielle ? Je vous demande pas, en tout cas pas pour l'instant, pour qui vous allez voter, mais est-ce qu'au moins vous allez voter ? Est-ce que vous vous dites, ben voilà, on peut manifester, on peut aussi aller voter pour donner son avis ?
C'est un droit, on l'a gagné, maintenant il faut aller voter, même si dans notre tête, de toute façon, dans beaucoup de têtes, ça sert à rien.
Mais vous irez voter ?
J'irai voter quand
vous
même.
Vous savez pour qui ?
Non.
Vous savez
non,
pas encore ?
Non.
Restez avec nous, 2 autres interlocuteurs nous ont rejoints. Bonjour Pierre-Yves Girard.
Bonjour.
Et bonjour Joël. Je donne pas votre nom de famille, vous nous avez demandé de ne pas donner votre nom de famille. Alors, Pierre-Yves Girard, vous êtes curé de Commercy depuis 14 ans. Vous avez accueilli il y a 3 ans des rassemblements de gilets jaunes dans votre salle paroissiale. Joël, vous êtes auto-entrepreneur, vous travaillez dans la comptabilité et le conseil juridique, vous avez 39 ans. Est-ce que l'un et l'autre, prend le micro qui veut, Vous pourriez nous présenter cette ville de Commercy, parce que voilà, si les manifestations de Gilets jaunes à l'époque ont pris, c'est aussi parce qu'il y a un contexte. C'est quoi cette ville de Commercy qui fait un peu moins de 6000 habitants?
Oui, c'est une petite ville qui fait 5400 habitants en France.
Le maire dit 5008, je crois, on va pas le vexer.
Ça fluctue entre l'INSEE et les hommes politiques. C'est une petite ville avec un passé militaire, qui a perdu un régiment, dont on a essayé de compenser par un certain nombre de choses qui sont pas forcément...
Il y a Safran qui s'est installé, l'entreprise Safran, l'avionneur.
Oui, c'est beaucoup. Ouais. Et il y a aussi une partie du casernement de Commercy, de l'ancien 8e RA qui a été racheté par Cochril, et qui en ont fait un forum de formation.
C'est une ville qui a subi, comme beaucoup d'autres, au fil des 40 dernières années, la désindustrialisation. Il y a toujours l'entreprise Tréfil Union qui avait plus de 2000 salariés à une époque, on n'a plus qu'une centaine. Qu'est-ce que vous diriez, Joël, pour présenter cette ville de Commercy ?
C'est une ville ouvrière, indéniablement. Ça fait partie de ces villes un peu oubliées du monde. Et si on n'avait pas fait l'Assemblée des Assemblées, beaucoup de gens ne connaîtraient pas le nom de Commercy aujourd'hui.
Il y a les Madeleines quand même.
Oui, il y a les Madeleines. Bon. Mais les Madeleines, ça nourrit pas tous les gens de Commercy, en fait. Donc c'est quand même une ville où la précarité est très grande, le taux de pauvreté est de 25%, le taux de chômage est de 25%. Ouais. Donc c'est ces espèces de déserts, la diagonale du vide, ces endroits où les services de proximité disparaissent, il n'y a plus d'urgence à Bar-le-Duc, les gens sont obligés de faire une heure pour aller accoucher. Il y a la maternité, les urgences vont fermer aussi. Ouais. Donc c'est ça la réalité des gens qui vivent ici en fait. Et ce territoire, peu à peu, est déserté par les services de proximité. Alors, et la précarité sociale est immense. Et pour moi, c'est ça la réalité ici. Elle est poignante, elle est omniprésente et elle est dure.
Vous dites les gilets jaunes, c'était d'abord entraide et système D. Ouais. Dans ce contexte-là, c'est ça dont vous vous souvenez?
Ah oui, bah c'est...
Ça se manifestait comment,
c'est formidable.
Système D, ça veut dire quoi?
Système D, c'est à un moment donné, il y a besoin de construire un truc, un endroit, une cabane. Il y a quelqu'un qui arrive avec un camion-grue qui transporte la cabane parce qu'il faut la déplacer de 10 mètres, parce que le maire veut la déplacer de 10 mètres.
C'était un autre symbole de la mobilisation ici, la cabane sur la place de Gaulle.
C'est des gens qui arrivent sur le rond-point, des gens qui déposent des choses. C'est super, cet élan de solidarité qu'il y a eu pendant des semaines, de gens qui apportaient des choses, qui klaxonnaient, qui étaient là en soutien. Enfin, c'est formidable ce que les gens ont vécu ici. Ça a donné ce sentiment que... contre la précarité, l'entraide, c'est une réalité, en fait.
Alors, Joël, vous avez le gilet jaune. Père-Yves Gérard, vous ne l'avez pas. Vous me dites adhérer à certains égards au mouvement et accueilli dans votre salle paroissiale. Racontez pourquoi vous avez adhéré il y a 3 ans et qu'est-ce qui s'est passé dans cette salle paroissiale?
Oui, alors, ce que vient de dire Joël est un peu... la charnière, c'est-à-dire il a parlé de la cabane qui était
sur la place centrale.
Cette cabane a été démolie par la volonté du maire et par la gendarmerie. Ils ont cherché une salle qu'ils n'ont pas trouvée, du moins une salle qui ne correspondait pas à exactement à leurs besoins. Ils sont venus me voir. Il se trouve que j'ai des salles paroissiales. Il se trouve que j'avais lu tout à fait, parce que j'étais intéressé, Jojo le gilet jaune de l'académicienne Danielle Salnave.
Absolument.
Que j'avais trouvé très convaincant comme analyse, si bien que j'ai pris conscience de ce qui se passait, de l'enjeu des gilets jaunes. Alors, je ne suis pas moi-même gilet jaune, bien que j'ai affiché dans ma voiture le gilet jaune. C'est vrai que j'accueille régulièrement des petites assemblées ou une assemblée.
Parce qu'il y en a toujours.
Il y en a toujours.
C'est ma question. Il en reste quoi des gilets jaunes? Alors, il y a toujours des rassemblements. Il y a quand même moins de monde. Oui. Il faut le dire. Et encore, Commercy est une ville où il y en a. Alors qu'il y a beaucoup de villes où il n'y a plus de rassemblements de gilets jaunes. Qu'est-ce qu'il en reste? Comment les personnes ont prolongé ça?
Eh bien, écoutez, moi, je ne peux dire que ce que j'ai entendu.
Mais c'est ce que je vous demande.
Voilà. on m'a dit qu'il y a eu au grand moment de des manifestations et il y a eu jusqu'à 600 gilets jaunes. Ouais. Et même peut-être plus.
Vous ne me dites pas ce qu'il en reste et comment ça s'est
si,
prolongé.
Si, il en reste une cinquantaine, d'après ce que j'ai compris. Il en reste une cinquantaine, mais avec des dissensions, semble-t-il, ou des... Je dis pas des fractures, mais peut-être des désaccords, ou si bien qu'il y a deux sensibilités, d'après ce que j'ai compris.
Oui. Hein,
il y a deux sensibilités. Il y a une sensibilité plus rond-point, on va dire, et filtrage et, oui. et tractage, et puis une sensibilité plus manifestation, voire
violence.
Je ne sais pas s'il y a violence, mais il y a au contact.
On posera la question de la violence. Joël, vous dites, moi, je suis revenu de plein de choses. Aujourd'hui, vous prolongez l'engagement dans l'associatif avec cette association qui s'appelle Commercy La Convive. C'est quoi cette association ?
Ben, justement, moi, je pense que la question des dissensions, ça serait dommage de résumer ça à ça. Ce qu'on est devenu, c'est que je crois qu'on a eu l'intelligence
de se diversifier.
On est parti dans plein de directions différentes. Il y en a qui continuent de manifester, d'autres qui ont monté une liste citoyenne aux élections qu'on fait 9,3% quand même.
On en parlera tout à l'heure.
Et nous, on était déjà engagés dans une association. Je dis nous parce qu'on est certains, une poignée à avoir participé aux Gilets jaunes qui étaient engagés dans une association à Commercy. Et ça a donné une nouvelle ampleur à cette association aussi, parce qu'on a été rejoint par des personnes issues du mouvement des Gilets jaunes.
Et nous-mêmes, vous faites quoi dans l'association ?
C'est simplement un lieu ouvert à tous. C'est un espace où les rapports marchands, la convivialité, l'entraide sont possibles. Enfin, où les rapports marchands ne sont pas le premier rapport que les gens ont avec les choses. Donc on essaye de faire exister un endroit où tout le monde puisse aller, et un espace social d'entraide et de convivialité. Voilà.
Père-Yves Gérard, je vous laisse retourner à vos activités de curé de Commercy. C'est quoi le programme de la journée, là, au milieu de semaine, du curé de Commercy ?
Bon, ça varie, c'est beaucoup...
Là, vous avez quoi cet après-midi ?
Cet après-midi, qu'est-ce que j'ai ?
Des visites de personnes
Oui, j'ai des visites de personnes. J'ai une visioconférence tout à l'heure, parce qu'on est dans un département aussi qui est très, très éclaté, très, très désertique, comme il a été dit.
Et donc, même au sein de l'église, on passe en visio.
On passe en visio, oui.
Merci beaucoup d'être venu autour de notre table. On retrouve Mathilde de Himy et les reportages et les témoignages qu'elle recueille ici à Commercy depuis le début de la semaine. La question de l'abandon des petites villes et zones rurales était au cœur des revendications des Gilets jaunes. Ici, les habitants regardent les prix de près quand ils font leurs achats, mais ils défendent aussi leur centre-ville. Et beaucoup de magasins ont résisté face à la concurrence des grandes surfaces et achats sur Internet. D'ailleurs, au rayon jouet, c'est la grande surface spécialisée en zone commerciale qui a fermé. Le magasin de centre-ville est toujours là. Tout le monde l'appelle la récré. Mathilde de Himy, vous avez donc rencontré la patronne Brigitte Christophe. Elle a 26 ans de métier. Dans sa boutique, il y a des jouets du sol au plafond. Et oui, il y a des manifestants qui viennent avec leurs chiens aussi. Vous l'entendez peut-être au micro. Et dans la boutique de jouets, donc beaucoup de monde depuis mi-octobre, par crainte des pénuries et pour étaler les dépenses aussi. Parole à Brigitte donc, puis à l'une de ses clientes, Aurore.
Ah, les clients sont sympas, ils viennent. Là, on est une petite ville, donc petite boutique dans les petites villes. Les gens comprennent que si tout le monde ferme, ben après, il n'y aura que les gros trusts, voire Amazon. Bon, ben, c'est pas une vie pour tout le monde. Donc, les gens sont intelligents, ils comprennent bien.
Vous avez résisté à tout ?
Ben, c'est parce que j'essaye de m'adapter aussi. Au niveau tarifaire, chacun fait ce qu'il peut. Les gens ont envie de dépenser, mais il y a des fois, ils peuvent ou ils ne peuvent pas, ça dépend. Ils auraient bien aimé faire plaisir, mais ils peuvent ou ils ne peuvent pas, ça dépend. Trésor détecteur. Oui, je vois. Je vais dans le rayon.
Je viens de voir la différence de prix entre Internet et puis le magasin, si ça peut m'éviter de commander en ligne. J'ai commencé mon budget Noël depuis septembre, parce que j'ai mes enfants, j'ai ma famille, donc j'échelonne. Je suis sûre de ne pas être embêtée.
Nous sommes toujours avec Karine Laurent, qui est femme de ménage, c'est son métier. Joël, auto-entrepreneur. Et puis Emmanuelle Henry, préparatrice de commandes en grande distribution, est revenue, elle qu'on a entendue au début de ce journal. Les uns les autres, est-ce qu'au moins vous vous dites que ce message-là est passé, le côté « il y a une vie dans les petites villes », cette France qu'on avait oubliée. Il y a des programmes qui existaient avant, qui ont été développés, programme Cœur de Ville, Petite Ville de Demain, les Maisons France Service. Le côté « coucou, on existe dans les petites villes » et à la campagne, est-ce que vous avez l'impression que celui-là est passé ? Karine Laurent.
Non. Non. On nous a oubliés.
Toujours.
Ouais.
Emmanuel, sur cette question.
Moi, je ne comprends pas bien la question, moi.
La question, c'est, il y a 3 ans, vous disiez, on ne parle pas des petites villes comme nous. Moi, j'ai l'impression que depuis 3 ans, c'est plus le cas. Que les petites villes, comme Commercy, on en parle et on en tient compte davantage. Je me trompe ou pas ?
Oh, vous vous trompez.
Moi, je trouve qu'on médiatise toujours Paris, et au niveau des provinces, on ne fait pas assez attention aux provinces et aux difficultés qu'il y a vraiment à ce niveau-là.
Joël ?
Moi, c'est pas la... enfin, j'ai l'impression que la réalité que je vis tous les jours, elle n'existe toujours pas sur les écrans, en fait. Et je pense que beaucoup de gens mériteraient à passer beaucoup plus de temps dans ces petites villes pour juste se rendre compte de ce que c'est de vivre ici et de ce qu'on vit ici et de ce que c'est la réalité des endroits comme ici, en fait.
Alors, je voulais poser la question de la violence du mouvement des Gilets jaunes ou d'une partie des manifestants à l'époque. Indiscutablement, quand on a un sondage Ipsos France Inter aujourd'hui qui nous dit que 40% des personnes interrogées se sentent proches du mouvement des Gilets jaunes. Quand on leur demande qu'est-ce qu'il y avait de négatif, à 53%, ils disent la violence. Elle est indiscutable, la violence de certains manifestants. Emmanuel, je vois vos yeux bleus se durcir, mais je voudrais vous entendre là-dessus.
Oui, alors je suis totalement d'accord. C'est vrai qu'il y a de la violence, c'est vrai qu'il y en a eu. Maintenant, quand on ne nous écoute pas ou qu'on essaye de nous amoindrir de tous les côtés qu'il y ait de la violence, bah oui, automatiquement, quoi.
Joël ?
Ouais, ce qui m'a frappé, c'est surtout la violence de ce qu'ont subi toutes ces personnes qui sont sorties dans la rue avec une colère spontanée et dont des centaines sont en prison, en fait. C'est absolument incroyable. Et ça, on n'en parle absolument pas de ceux qui sont en prison. On parle à la limite de ceux qui sont mutilés. Et encore, on parle de 27-29, mais ils sont beaucoup plus parce qu'ils ne parlent pas de leurs blessures. Ils rentrent chez eux, ils veulent pas que leur famille le sache, ils veulent pas que le monde le sache. Donc ils rentrent chez eux avec leurs pieds en moins, leurs orteils en moins, leurs yeux crevés. Et ils se taisent et ils disparaissent et leurs familles les ont exclus. C'est dramatique ce qui s'est passé. Et ça, c'est une réalité qui n'existe pas.
Karine, est-ce que la violence sociale, disons-le comme ça, les difficultés sociales qu'on peut subir justifient qu'on se montre violent en manifestation, qu'on casse ?
Si c'est pour être entendu, ouais. Parce qu'il y en a marre.
J'ai le droit de ne pas être d'accord.
Et on ne parle pas des gens, des policiers ou des gendarmes qui nous tapent dessus alors qu'on ne demande rien, qu'on manifeste pacifiquement. Et là, on en parle. Et eux, ils ont quoi ? Une tape sur les doigts. Et il y en a qui vont en taule pour moins que ça.
Même si, pour beaucoup de gens, du coup, ça fait que ce mouvement des Gilets jaunes n'est pas recevable.
C'est pas en restant assis le cul sur son canapé qu'on arrivera à faire quelque chose.
Allez, on va parler encore plus. Un mot, Emmanuel Henry, et puis on...
Oui, je voudrais juste dire que dans toutes les manifestations, il faut comprendre qu'il y a plusieurs vitesses. Ceux qui veulent aller lentement et pacifiquement, ils peuvent même dans les manifs où est-ce qu'il y a des déterres et qui cassent. Voilà, tout le monde peut trouver sa vitesse et tout le monde peut faire en fonction, quoi.
Déterminé. Allez, avant de parler, c'est Mathilde de Imi qui intervenait. Eh bien, vous faites bien de prendre le micro. Avant de parler encore plus directement de politique, nouvel éclairage sur la ville de Commercy avec vous, Mathilde, et le maire d'hiver droite, Jérôme Lefebvre. Lui se présente sans étiquette. À la page Commercy de l'Est républicain, il est question ce matin de l'ex-immeuble Bragui, voué à la démolition. Une partie du centre-ville est dégradée. Et il vient de lancer plusieurs dispositifs pour inverser la tendance à la dégradation.
Oui, 300 logements dans deux zones de la ville sont recensés comme habitat dégradé. Et si les propriétaires veulent louer, ils devront obligatoirement obtenir en mairie un permis. Jérôme Lefebvre, donc, le maire de Commercy.
Régulièrement, la police municipale intervient pour constater qu'effectivement, certains biens sont fortement dégradés à la demande des occupants. Le permis de louer, c'est un outil supplémentaire qui va permettre de surveiller un peu mieux la mise sur le marché de ces locations, puisqu'il faudra, pour que la personne puisse mettre en location son bien, une grille de décence, qu'elle soit validée. Ça nous évitera la plupart du temps de nous retrouver dans des situations parfois un peu complexes. Nous avons affaire à des marchands de sommeil.
Il y a aussi beaucoup de logements vacants. Là aussi, la mairie a fait un recensement et a déjà repéré 5 immeubles à l'abandon. Une opération de restauration immobilière, une ORI, est donc enclenchée. La collectivité oblige les propriétaires à faire des travaux pour remettre les logements sur le marché, faute de quoi ils peuvent perdre gros. Jérôme Lefebvre.
Nous sommes rentrés en contact avec les propriétaires et nous leur avons proposé de profiter de mise à disposition de financement pour pouvoir rénover ces biens-là ou tout simplement de les faire bouger en les vendant. Donc l'intérêt, c'est de faire bouger ce marché un peu endormi. Pour le propriétaire récalcitrant, ça peut aller jusqu'à l'expropriation.
C'est un travail de long cours, hein, lancé sous la mandature précédente. Le maire va pouvoir s'appuyer en plus sur un tout nouveau dispositif du gouvernement. Vous en parliez tout à l'heure, Bruno, les petites villes de demain. Commercy fait effectivement partie des 1600 communes sélectionnées. Elle est donc éligible à des financements d'État pour l'habitat, on l'a entendu, mais aussi l'aménagement urbain ou le développement économique.
Et nous sommes toujours avec Emmanuelle Henry, qui est préparatrice de commandes dans la grande distribution. Nous ont rejoint Steven Mathieu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éducateur spécialisé, actif il y a 3 ans dans le mouvement des Gilets jaunes. Plus de recul aujourd'hui, vous nous direz pourquoi. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez été candidat au municipal.
Oui.
Et puis Claude Kayser, bonjour Claude Kayser.
Bonjour.
Vous aussi, vous avez un gilet jaune sur les épaules. Vous êtes maire d'une commune voisine. Vous avez mis en place une assemblée citoyenne dans cette commune. Je donne pas son nom à la commune. Vous voulez pas. Expliquez-moi pourquoi, parce que ça raconte aussi ce mouvement des Gilets jaunes.
Parce que tout simplement, les habitants de ma commune ne souhaitent pas être sous le feu des projecteurs. Pour eux, ils font une expérience tout à fait banale et naturelle qui ne mérite pas d'être popularisée. Voilà.
C'est pas vrai qu'elle est banale, des assemblées citoyennes, il n'y en a pas.
C'est pas vrai,
il y en a très peu.
Nous, ce qu'on vit au quotidien, c'est ce qui devrait être partout, tout simple. Et on n'a pas envie de se faire connaître, d'être interviewé tout le temps. Moi, je viens ici, aujourd'hui, c'est particulier, c'est dans le prolongement du mouvement des Gilets jaunes. Mais bon, ma commune, je respecte la volonté des citoyens, des habitants de ma commune, qui ne souhaitent pas qu'elle soit citée.
C'est l'Assemblée qui l'a voulu. Alors ça marche comment cette Assemblée citoyenne? Racontez-nous, parce qu'il y a toujours des réunions, c'est ça qu'il faut dire. 3 ans après, il y a toujours des réunions.
Alors là, c'est pas...
La commune, ça on peut le dire juste, elle fait 200 habitants à peu près.
Oui, c'est pas consécutif aux Gilets jaunes, l'idée préexistait déjà avant, mais bon, les Gilets jaunes ont montré que c'était possible de fonctionner démocratiquement, avec une vraie démocratie, contrairement à celle qu'on connaît aujourd'hui. Donc dans mon village, c'est tout simple, c'est l'ensemble de la population qui décide, et les élus, dont moi, exécutent, tout simplement, que ça leur plaise ou non. C'est ça la vraie démocratie. La décision, elle appartient à tous. Ils viennent pas seulement pour donner leur opinion, ils viennent pour voter, pour décider sur les projets les plus importants, naturellement.
Un exemple.
Un terrain multisport. Est-ce qu'on fait un terrain multisport pour les enfants? Est-ce que ça vaut le coup dans un petit village comme le nôtre? Certains disent non, d'autres oui. On décide, on confronte les points de vue, on s'entend les uns les autres, on se respecte, et au final, on définit une position commune à la majorité, et puis le terrain multisport est fait, même si l'élu que je suis n'y est pas forcément favorable.
Vous acceptez de prendre des décisions auxquelles vous n'êtes pas favorable?
Oui.
Il y a des réunions tous les combien? Et combien de personnes y participent?
Disons que ça fait plus de la moitié de la population adulte a déjà participé à ces réunions. Depuis le début, ça fait 1 an. Quoi.
Et aujourd'hui, il y a encore du monde tout...
Oui, bien sûr, oui. Ça dépend des sujets. Il y a des sujets qui sont plus porteurs que d'autres, mais il y a toujours du monde. Le concept est tout simple. C'est ce qui devrait se produire partout. Les citoyens décident et les élus ne sont pas des dirigeants, mais des délégués qui exécutent.
Alors, ça peut marcher dans une ville de 200 habitants. Est-ce que ça peut marcher dans une ville de 2000 ou de 20 000?
Il faut tout faire pour que ça marche. La première question qu'on pose, c'est...
Ça, c'est une demi-réponse.
Oui, non, mais bien sûr, ça pose plus de difficultés dans une grande ville, mais on peut la découper en quartiers, on peut imaginer des projets plus circonscrits à de petits endroits, et puis après, se fédérer pour créer quelque chose de plus grand, d'envoyer des délégués, non pas des dirigeants. Tout ça, c'est évidemment très complexe, très compliqué, mais au lieu de voir tout de suite les obstacles, je pense qu'il faut voir la beauté de l'idée qui change tout le système, de voir que ça fait franchir un saut qualitatif dans la démocratie, et de tout mettre en œuvre pour réussir à appliquer ce système, à l'étendre, à l'élargir, à le populariser. Donc moi, je sais qu'il y a des difficultés dans une ville, même comme Commercy, mais c'est pas insurmontable. On peut y arriver. On a plein. Je serais trop long ici d'exposer tous les moyens pour y parvenir, mais en tout cas, c'est pas du tout exclu.
C'est l'Assemblée des maires de France. En ce moment, vous avez des collègues maires qui vous appellent de temps en temps en disant: Claude, comment ça marche chez toi?
Quelques-uns, oui, mais bon, ils sont très peu nombreux. La plupart pensent que c'est pas transposable dans leur commune, parce qu'ils voient tout de suite les obstacles, parce qu'il y a des clans dans ma commune, parce que ici il y a ceci. Mais moi, dans ma commune, elle est pas différente des autres. Il y a des clans aussi, il y a des gens qui... Mais ça fonctionne dès lors qu'on se met tous autour d'une table et qu'on apprend à se respecter, ce qu'on fait les Gilets jaunes à Commercy, et puis ce qui est tout à fait faisable à partir du moment où il y a des bonnes volontés de chaque côté. On n'est pas tous d'accord, on n'a pas tous les mêmes idées, mais au lieu de rester chacun bloc contre bloc, comme nous y conduit le système de démocratie représentative actuelle, mettons-nous tous ensemble autour d'une table, votons, décidons tous, toutes et tous.
Vous me disiez il y a un instant, je ne vais pas vous énumérer tous les trucs qu'il y a pour que ça marche. Mettez-en un de côté quand même dans votre tête, je suis curieux de savoir, mais je voudrais entendre Steven Mathieu. Ce que fait Claude Kayser dans sa commune, Steven Mathieu, c'est un exemple pour vous qui avez été candidat au municipal ici à Commercy?
Oui, effectivement, en fait, on avait essayé... en fait, ça part quand même... Il faut le rappeler, du mouvement des Gilets jaunes, du fonctionnement interne en fait au groupe des Gilets jaunes de Commercy, avec une assemblée en fait au début quotidienne, et ensuite c'était 3 par semaine, et où du coup il n'y avait pas de hiérarchie, il y avait un ordre du jour qui était établi collectivement, et puis des décisions qui étaient prises collectivement.
Et on arrivait à des décisions, il y a toujours l'image que dans ces réunions, ok, on parle, mais on n'arrive à rien décider.
C'était 1h30 tous les soirs, et puis en fait il faisait très froid, c'était en plein milieu de l'hiver, je peux dire que
ça caillait.
On faisait les débats, il y avait des prises de parole, mais les décisions se prenaient, parce qu'on voulait aussi avancer. En fait, le but, c'était pas de parler pour parler, c'était de prendre des décisions pour nous, pour le mouvement, et faire avancer les choses.
Alors vous les municipales à Commercy, 9,3% en 2020 pour votre liste issue des Gilets jaunes, vous avez considéré ça comme un bon score? Comme une base pour faire autre chose, vous nous racontez votre vie aujourd'hui.
Ouais, si vous voulez, c'est jamais suffisant, parce qu'on espérait au moins avoir quelques élus au conseil municipal.
Ce qui n'est pas le cas.
Ce qui n'est pas le cas. Essayer de comprendre aussi le fonctionnement aussi en interne, même si on sait aussi un peu comment ça fonctionne, mais le vivre de l'intérieur, se former, comprendre, sortir les dossiers en fait de la mairie, pouvoir les offrir à la population, les éclairer, même les vulgariser s'il fallait. L'idée, c'était vraiment c'était un pied dans la porte, dire voilà, nous, on est les citoyens, on est là, on veut être au conseil municipal, on veut participer à la prise de décision de manière démocratique. Ça n'a pas pu être réalisable. On le fait, on le fera différemment par le biais d'assemblées où ça sera un pouvoir, si vous voulez, parallèle. Et puis après, de la pression, dire voilà, vous prenez cette décision, nous aujourd'hui on n'est pas d'accord. Enfin, la population n'est pas d'accord. Si elle l'est, tant mieux. Si elle ne l'est pas, il faut pouvoir discuter.
Donc vous êtes prêt à y retourner?
Ouais, bien sûr. Ouais.
Aujourd'hui, vous avez pris un peu de recul avec le mouvement des Gilets jaunes. Alors, pas idéologiquement, dites-moi si je me trompe, mais parce que vous êtes papa, ça amène une question. C'est compliqué à la fois d'être engagé dans un mouvement comme celui-là et de mener une vie personnelle.
Ouais. Mais ça, on l'a dit, tout le monde l'a dit. Manu, on a eu des reportages, des gens qui sont venus. Ça, c'est quelque chose qu'on a toujours dit. Ça a été un sacrifice. Le mouvement des Gilets jaunes, les gens qui ont participé à ce mouvement-là, et après à l'Assemblée citoyenne, peu importe les chemins que chacun a pris et les engagements, ça a été un sacrifice. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a dû mettre notre vie en stand-by pour ceux qui sont investis vraiment quotidiennement comme nous. C'est des assemblées quotidiennes d'une heure et demie, deux heures dans le froid. Il faut s'imaginer d'occuper les ronds-points, d'occuper la cabane, de réfléchir à comment maintenir la pression avec la préfecture, avec la municipalité, mais aussi du coup pas penser qu'au niveau local, c'est les manifestations avec le gouvernement. Enfin, il faut s'imaginer que nous, on n'est pas du tout des professionnels de la politique et du militantisme au départ. Et que du coup, c'est quelque chose d'énorme. Énorme finalement ce qu'on a fait quoi.
Emmanuel Henry, vous allez voter l'année prochaine?
Ah oui, au premier tour.
Est-ce que vous savez pour qui? Est-ce que vous voulez bien nous le dire?
Pour qui, pas exactement, et non, parce que je suis apartisan à la base, donc je ne parlerai jamais de politique dans aucun mouvement de Gilets jaunes, ça ne m'intéresse pas. Et j'aimerais bien surtout qu'on reconnaisse le vote blanc quoi.
Et le référendum d'initiative citoyenne, par exemple, un candidat qui défendrait le référendum d'initiative
citoyenne. Je trouve ça très bien.
Je vous ressors notre sondage Ipsos France Inter sur les Gilets jaunes 3 ans après. Les candidats les plus proches du mouvement selon les personnes interrogées, Mélenchon et Le Pen, est-ce que ça coche? Est-ce que ça cadre?
Moi je vais vous répondre tout simplement que je ne parlerai pas de politique avec vous.
Pourquoi?
Parce que le mouvement des Gilets jaunes est apartisan, c'est-à-dire qu'on est là tous pour une lutte, pour un combat, pour quelque chose qu'on défend. On n'est pas là pour dire je suis de droite, je suis de gauche, je veux ci ou je veux ça, non. Si on est tous là pour une idéologie, c'est-à-dire avancer dans la vie, le pouvoir d'achat, les liberticides et tout ce qu'on veut derrière, mais pas pour dire de quel côté on s'en fout. Moi, ça fait 3 ans, il y en a toujours, je ne sais toujours pas de quel côté ils sont, et je m'en tape totalement, quoi.
Mais ça a été un piège, si je peux me permettre.
C'est-à-dire
que dire de poser cette question gauche-droite, effectivement, peut-être.
Non, mais il y a
des candidats qui vont se rapprocher peut-être de ce qui s'est passé de la réalité, ou c'est peut-être des candidats qui se sont rapprochés aussi politiquement de ce qui s'est passé dans les mouvements Gilets jaunes à des fins aussi politiques. Nous, ce qu'on défend dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est de dire, c'est aussi la politique, vos politiques et votre politique qui nous a amené à sortir dans la rue. Donc, on veut aussi faire sans vous.
Bien sûr, il y a aussi un moment où il y a une élection dont on sait que tout dépend en France, qui va se tenir. Il y a des gens qui s'y présentent, il y a des décisions à prendre. Et c'est aussi comme ça qu'on fait de la vie politique.
Mais ça, c'est de la responsabilité de chacun. C'est-à-dire, s'il y en a qui veulent voter, nous, c'est très clair dans le mouvement des Gilets jaunes depuis le début. C'est-à-dire que on vient sans notre étiquette politique. Je pourrais vous dire que je vais voter ou que je vais pas voter, et pour qui je vais voter.
Mais déjà voter ou pas voter, c'est un signe.
Ouais, ben voilà. Mais alors, peut-être, moi, j'ai voté en 2017, et peut-être que là, je voterai pas parce que j'ai changé aussi. Il y a des choses qui ont changé. Je participe à la création d'un mouvement de démocratie directe. Aujourd'hui, est-ce que ça a un sens d'aller voter? Parce que je crois pas au système et à ce qu'il représente. C'est de dire, oui, je vais voter pour un candidat qui se rapproche un peu plus et qui va peut-être faire un peu plus pour moi ou pour ma catégorie sociale, etc. Mais au bout du bout, est-ce qu'il est vraiment libre de sa politique? On se rend bien compte que peu importe les candidats, finalement, c'est quand même une politique ultralibérale qui s'applique, peu importe les candidats qui sont succédés.
Claude Kayser, à propos de cette question, est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut sortir du maximalisme et se dire, celui-là, il est plus proche de mes positions ou celle-ci, je vais y aller et voilà.
Si on regarde... Est-ce que la responsabilité n'est pas là aussi?
Si on regarde l'histoire, et même l'histoire récente, la succession des candidats, les alternances n'ont pas changé grand-chose à la vie des gens. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien présent dans l'esprit de tous les citoyens. Donc je ne sais pas, vous disiez que tout dépend de l'élection présidentielle. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qu'on dépend. En fait, ce que m'a appris le mouvement des Gilets jaunes, c'est que l'essentiel dépend de nous. Comment on fait pour changer les choses à la base en se regroupant? Parce que nous, on était de toute tendance. Il y avait des gens de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite. On s'est retrouvés tous ensemble autour du rond-point à se respecter pour la première fois de nos vies. Et
on est, le mouvement des Gilets jaunes. Il n'y avait pas plus d'extrémistes qu'ailleurs parmi les Gilets jaunes.
J'en sais rien. On était apartisans. On n'était pas apolitique. Le mouvement des Gilets jaunes, il est profondément politique, mais apartisans. Et ça, c'était essentiel pour que ça aille plus loin et pour qu'on crée vraiment une dynamique tous ensemble pour la première fois dans l'histoire des mouvements sociaux.
Emmanuel Henry, vous avez eu le premier mot dans cette émission, vous aurez le dernier, mais très court, parce que
d'accord, on a un reportage annoncé. Je voulais juste dire qu'au niveau extrémiste, on ne s'est même jamais posé la question, tellement on était dans quelque chose où c'était apartisan. Quoi. La question, elle ne se posait pas.
Merci à tous d'être venus autour de cette table, ici au bord du rond-point des Vaches Bleues. Pour finir cette émission, un tour dans un autre commerce de Commercy. Sarah Guibaudot est allée faire un tour à la librairie commercienne hier. Pendant un temps, c'était la seule librairie indépendante de toute la Meuse. Celle qui la tient s'appelle Frédéric Burnel. C'est un lieu de passage, un lieu de vie, un lieu de culture, tout en douceur.
Donc la librairie est ici depuis 2013. Donc voilà, voilà notre lieu. Et la papeterie est au fond. On disait, je suis une libraire, mais une libraire indépendante. Donc mon choix n'est guidé par personne. C'est avec mon équipe, c'est un travail de fond aussi. Quand on nous présente des livres, on s'imagine déjà à qui on va les vendre. Enfin, moi je suis là depuis 40 ans, donc j'ai un public assez fidèle. Il nous suit depuis des années, il y a eu des enseignants, sincèrement, on a tout public. On veut que les gens lisent, donc on essaye d'avoir pour tout le monde, pour tout le monde. On est très content quand on fait évoluer un choix. Donc c'est ce qui fait la passion de notre métier.
Alors, il y a quelques clients. Bonjour, donc vous êtes François Dosé, ancien maire de Commercy pendant 30 ans et un habitué donc de la librairie.
Je suis habitué de la librairie parce que j'aime la lecture et j'aime le livre. Mais c'est vrai aussi que une citoyenneté responsable me conduit à privilégier la librairie plutôt que l'ordinateur pour acheter mes livres.
Et aussi, parce que Commercy est une petite ville, et quand je veux offrir un livre à un proche, c'est vrai que je peux dire à Frédéric, bon écoute, c'est une personne qui aime ceci, qui aime cela, qui n'aime pas ci, qui n'aime pas ça, qu'est-ce que tu pourrais me conseiller? Et elle ne tombe jamais à côté.
Donc on avance vers le rayon jeunesse, qui pour moi est très important, parce que je pense que c'est aux enfants qu'il faut donner envie de lire.
Il y a à la fois des livres, des jouets, des peluches. C'est surtout très coloré.
Oui, c'est important qu'on se sente bien. Donc on travaille beaucoup avec les écoles. On fait des ateliers, on va aussi carrément dans les écoles.
Alors, Frédéric, j'ai d'autres questions. Nous sommes à 6 mois de l'élection présidentielle et plusieurs candidats ont publié des livres. Est-ce que vous les avez, les livres politiques? Est-ce qu'ils se vendent? Est-ce qu'ils sont là? Vous les avez quelque part?
Ils sont là. Je vous emmène dans le rayon politique. Vous les trouvez tous là.
Le Éric Zemmour?
Oui.
Et alors, est-ce qu'il se vend?
Oui, si, si, franchement, on en a vendu beaucoup. Oui. C'est difficile de dire ça, je ne veux pas dire que...
Et les autres, Anne Hidalgo, Fabien Roussel, Barnier, est-ce que vous avez... Est-ce que ça se vend aussi?
Non, pour le moment, je pense que c'est trop tôt. Non, les gens ne sont pas pour l'instant dans la recherche des livres politiques. Ils ont démarré un peu tôt et non.
Vous me disiez qu'il y a 10 ans, vous étiez la seule librairie indépendante de la Meuse.
Oui, c'est-à-dire qu'il y avait 2 librairies en Meuse, en plus de la librairie commerciale, une à Verdun, une à Bar-le-Duc, qui ont malheureusement fermé. On s'est retrouvés tout seuls. Ce n'était pas forcément un moment sympa. Parce qu'au niveau culture, de ne plus avoir 2 librairies... Donc, ça nous a aussi obligés à sortir de notre lieu, enfin... d'aller de l'avant, de faire des salons, d'aller à la rencontre des gens. Et maintenant, nous sommes 3 librairies en Meuse. Donc cela va mieux. Je vous présente mon équipe. À côté de vous, il y a Audrey, qui est avec nous depuis 10 ans. En stage, Sophie, future libraire.
Future libraire. Alors, Sophie, quel âge avez-vous?
45 ans.
D'accord, donc vous êtes une stagiaire très expérimentée.
Vous êtes en reconversion, c'est ça ? Expliquez-moi.
Oui, effectivement, j'ai entrepris une reconversion en début d'année. L'effet confinement, je pense, a permis de mûrir une réflexion et un projet qui était là depuis plusieurs années, que je n'osais pas mettre en pratique. Donc voilà, je me suis lancée. Pour l'instant, j'ai une entreprise de conseil dans les domaines hygiène, sécurité, environnement. Et mon projet, c'est de monter un café-librairie. Là, j'aide Frédéric à préparer le salon du livre d'histoire de Verdun qui a lieu ce week-end.
Et au moins, moi, j'ai l'impression de transmettre les choses. Et ça, j'adore.
Et ce 13-14 à Commercy se termine sur les paroles de Frédéric Burnel, la libraire de la ville. Après le flash, la Terre au carré. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Programme, s'il vous plaît, monsieur.
Eh bien, nous accueillons Camille Etienne, jeune activiste du climat et de l'environnement.
À tout de suite.